quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Après 2 heures de résultats électoraux, qu'il va être bon de se mettre au piano. La grande matinale, le mag, c'est parti avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure. On reviendra évidemment sur le premier tour des municipales quand même, avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, une jeune chanteuse nommée Marcia. Et puis le débat du jour, il sera consacré aux Oscars qui ont eu lieu cette nuit à Hollywood. Timothée Chalamet aurait-il dû remporter la statuette? Les acteurs américains devraient-ils prendre plus position face à Donald Trump? Oscar 2026 à 9h30 environ, on refera le match. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Claire-Marie Le Guay est une pianiste française réputée, de celles qui jouent dans le monde entier. À 4 ans, figurez-vous, elle posait déjà ses doigts sur le clavier. J'essaye d'imaginer l'enfant, toute petite, face à l'immense instrument. La fillette est devenue femme, mais le piano est resté plus grand que la pianiste. Elle est comme ça, Claire-Marie Le Guay. Elle s'attaque à des immensités, des monuments de difficultés comme Liszt ou Schumann. Et maintenant, à Dieu le Père, j'ai nommé Jean-Sébastien Bach. Vous allez me dire, j'exagère. Pas du tout. Elle a intitulé son disque « Écoutez la lumière ». Comme si écouter Bach, c'était attendre un appel vers l'au-delà. Hein ? Et pourquoi pas ? Portrait numéro 106. Bonjour Claire-Marie Le Guay.
Bonjour Sonia De Villers.
Vous avez toujours cette petite voix intérieure qui vous guide et qui vous dit « soigne tes débuts ».
Oui, et les fins aussi.
Alors qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez ce morceau que vous avez choisi de placer au début du disque ?
Alors, une joie profonde, en fait, c'est aussi un morceau qui a marqué mon enfance.
Ah bon ?
J'ai écouté ce concerto, en fait. Au départ, c'est un concerto écrit par Vivaldi pour 4 violons, puis transcrit par Bach pour 4 claviers, et transcrit par Florian Noack, un formidable pianiste, qui est un jeune pianiste qui a une trentaine d'années, qui a fait cette version pour piano seul, et qui, du coup, m'a donné la chance extraordinaire de pouvoir être seule et jouer cette œuvre que j'aime tant et qui est vivifiante et qui nous met en joie pour la journée.
Écoute, Écoutez la lumière, c'est donc ce nouveau disque que vous consacrez à Jean-Sébastien Bach. C'est un parcours très intime dans Jean-Sébastien Bach, ce n'est pas une œuvre complète, ce sont des choix parfois étonnants. Comme je suis de nature nerveuse, impatiente, etc., j'ai choisi des morceaux rapides. Vous ne choisissez que des morceaux lents chez Jean-Sébastien Bach. Et puis, vous donnez aussi de la chair à Jean-Sébastien Bach avec Eric Orsena, le plus filou et le plus généreux de tous nos académiciens. Vous êtes tous les deux sur scène et vous racontez la vie de Bach dans un livre qui s'appelle « Que la joie demeure ». C'était des conférences au départ, c'est devenu un livre qui paraît le 2 avril chez Albin Michel. 4 filles chez les Le Guay, 4 filles qui jouent de la musique. Mais pourquoi jouent-elles toutes de la musique ?
Alors, grâce à notre mère qui est une grande amoureuse de musique, mélomane au sens le plus profond du terme, et qui tenait à ce que la musique fasse partie de la famille, fasse partie de notre vie, de notre éducation aussi, mais au-delà de ça, de la vie de cet appartement parisien qui résonnait dans tous les sens.
Oui, oui, vous racontez d'ailleurs que tout ça... Comment dire ? C'est les voisins qui en ont payé le prix.
Un peu, oui, je les remercie beaucoup, d'ailleurs. Une grande pensée pour eux. Mais c'était une...
Mais c'est drôle parce que votre mère est orthophoniste. Et le travail d'un orthophoniste, c'est de remettre droit les mots, de remettre droit la parole, de remettre droit le langage lorsque le langage est perturbé. Et ce sont vos mots, les notes ?
Oui, absolument. Et, et je dirais que les notes vont... au-delà des mots, et c'est ça qui est très beau. D'abord, chacun peut y mettre sur la musique les pensées, les émotions, les souvenirs qui lui sont propres. Chaque personne peut choisir justement le sens de la musique. Et puis, la musique dit ce que les mots ne peuvent pas dire. Elle va plus loin que les mots.
Donc, c'est parce que vous êtes empêchée de parler que vous jouez ?
C'est parce que ça me permet de dire plein de choses au contraire. Ça me permet de révéler plein de secrets.
Vous êtes la petite dernière chez les Le Guay. À quel moment est-ce que vous rattrapez les autres ?
Oh, je
veux dire, d'un point de vue musical.
Je ne les rattraperai jamais, une petite dernière. Est-ce une petite dernière ?
C'est vrai ?
Oh oui, bien sûr.
Parce que les autres sont devenues des musiciennes professionnelles ?
Alors, deux d'entre elles sont musiciennes professionnelles et une autre continue à aimer la musique tout en étant ingénieure.
Et à quel âge, au conservatoire, on vous désigne comme beaucoup plus qu'une petite fille appliquée du quartier ? À quel âge on décèle quelque chose qui fera de vous la concertiste que vous êtes devenue ?
Alors, je dirais qu'il y a deux étapes. D'abord, je suis entrée au conservatoire de Paris à 14 ans, ce qui est l'équivalent d'une école supérieure. Et ensuite, il y a eu... C'était pas encore licence master, mais pour l'équivalent de l'entrée en master, il n'y avait qu'une place. Il y avait énormément de candidats. Il y avait qu'une place et j'ai eu cette place. Et donc, je pense que plutôt que... Voilà, il y a eu un déclic à ce moment-là où on s'est dit « Ah oui, quand même, elle occupe une place particulière. »
Dans ce texte que vous publiez avec Eric Orsenna, vous dites quelque chose de très beau. Vous dites que vous ne pouvez pas entrer en scène avec votre instrument à la main comme le ferait une violoniste, que vous le regardez depuis les coulisses du théâtre et puis que vous allez vers lui.
Oui, c'est toujours un moment très 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 particulier. Vous savez, on est dans ce qu'on appelle effectivement les coulisses. Et puis le piano est déjà éclairé. En fait, il est sur scène et il attend. Et c'est, lui est déjà en présence du public. Et le public est là. Et il y a ce rendez-vous magnifique du concert, et petit à petit, le musicien va entrer sur scène. Et aller rejoindre le piano, c'est déjà le début du concert pour moi. Le piano, je pense que pour les pianistes, c'est une personne, en fait. C'est une rencontre. Quand on arrive sur scène, on ne sait pas sur quel instrument on va jouer. Et à chaque fois, il y a cette rencontre avec le public, cette rencontre avec le piano, et il est vraiment là pour faire le lien entre nous.
Et c'est un corps à corps ?
Et c'est un corps à corps. Absolument, c'est un corps à corps, à la fois parfois une bataille, parfois un embrassement, comme on dit quand on prend dans les bras, parfois une confidence, et on passe par toutes sortes de façons de parler à travers le piano.
Et alors ce qui est joli, c'est que dans ces conférences que vous faites avec Eric Orsenna, vous redonnez un corps à Jean-Sébastien Bach, qui est le père absolu, quand je disais c'était Dieu le père. J'ai raison quand je dis que c'est Dieu le père ou
oui,
pas ?
Oui, absolument.
Ah oui,
oui.
Ah ben voilà.
C'est le père de la musique occidentale, c'est celui vraiment à qui on doit tant.
Voilà, et puis en plus vous dites que c'est l'école de la rigueur et de la maîtrise, et alors je découvre que donc il y a une blague de pianiste, et la blague de pianiste c'est « passe ton bac d'abord », bac, B-A-C-H. Ouais.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment le... On commence par apprendre les œuvres de Bach, c'est vraiment le fondement pour plein de raisons.
Alors, votre premier bac, vous ?
Mon premier bac, c'est une invention. L'invention, c'est une petite pièce courte qu'il a écrite notamment pour les amateurs. Parce que Bach avait cette générosité de vouloir aussi apporter quelque chose à l'éducation musicale. Toute sa vie, il va enseigner, transmettre, donner. Et il écrit ses inventions pour aider les amateurs à progresser, à faire monter le niveau instrumental des amateurs de musique.
Et quand je dis que vous lui redonnez un corps, c'est-à-dire que d'un côté, vous vous enfermez à Saint-Omer et puis vous gravissez lentement cet Everest qui est d'enregistrer Bach seul à seul face à son clavier et face à ses partitions. Et puis vous allez sur scène et puis vous racontez avec Eric Orsenna que Bach a été un grand amoureux, que Bach a eu 20 enfants, même s'ils n'ont pas tous survécu, que Bach aimait la bière, que Bach aimait le café.
Qu'il fumait la pipe.
Voilà. Oui, un être de chair,
oui,
profondément
absolument.
De chair.
Profondément de chair et profondément tourné aussi vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a, chez lui l'amour de la vie, l'amour des femmes. Vous le disiez tout à l'heure, il se marie deux fois et deux fois par amour, ce qui ne se faisait franchement pas tellement à l'époque, d'autant plus la deuxième fois, en fait, après avoir perdu sa femme de façon très brutale et tragique, il choisit l'amour. Il aurait pu choisir
c'est
quelqu'un
la fameuse
qui
Anna Magdalena.
Et absolument, il aurait pu choisir quelqu'un qui s'occupe de la maison et des enfants. Non, il choisit une cantatrice, il choisit quelqu'un qui l'émeut. Et ça, c'est très très beau. Et puis, c'est quelqu'un qui consacre sa vie au travail. Il travaille le jour, il travaille la nuit. Il copie les œuvres de ses contemporains pour apprendre. Il est autodidacte. Il traverse toutes sortes d'épreuves. Le deuil est très 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 présent. Alors à cette époque, on a du mal à imaginer comment c'est possible d'avoir tant d'enfants et de perdre tant d'enfants. Enfin moi, c'est inimaginable pour moi.
C'est entièrement traversé par la vie et par la mort. Claire-Marie Le Guay raconte comment elle travaille Jean-Sébastien Bach. Et pour enregistrer ce qu'on entend là, est-ce qu'il faut commencer par tuer Glenn Gould? Comment on fait pour enregistrer ça? Je raconte pour ceux qui ne connaissent pas, Glenn Gould, immense pianiste canadien qui a consacré presque toute sa vie à Bach, presque toute sa vie à des préludes, des fugues et des variations Goldberg, et qui a produit deux enregistrements des variations de Goldberg, par exemple, qui passent pour être, comment dire, des monuments planétaires, des enregistrements indépassables. Alors comment on fait en 2025, Claire-Marie Le Guay, pour dire « moi, j'y vais ».
Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie grande question. D'autant plus que quand j'étais petite, j'avais l'impression que, en fait, il n'y avait que Gould pour jouer Bach. Enfin, c'était pas possible de faire autrement. Et ça demandait du temps, bien sûr. Le fait de lire des grands biographes comme Gilles Cantagrel, comme Marc Vidal m'ont beaucoup aidé aussi, notamment
des biographes de Bach,
notamment Marc Vidal qui insiste sur le fait que Bach aimait l'expression. Et donc, petit à petit, avec toutes sortes de choses comme l'autre grand biographe, Gilles Cantagrel, qui met tant en avant l'humanité de Bach, eh bien, petit à petit, j'ai réussi à oser me frayer un chemin, parce qu'il faut oser.
Oui, il faut oser.
Et puis, au bout d'un moment, quand on ose, eh bien, et qu'on se met à aimer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, on ose finalement se sentir aussi un peu... un peu chez soi, et puis de plus en plus, et puis vient le moment où on a envie de le partager, on a envie de faire connaître ce beau, ce grand, cette lumière, de porter cette élévation que nous offre Bach dans chacune de ses notes.
Alors, je fais une infidélité à Bach, je fais écouter Franz Liszt, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que les mains d'un pianiste. Mm-hmm. Voilà. Et alors, évidemment, vous allez vous attaquer à Bach, vous allez vous attaquer à Glenn Gould, vous allez vous attaquer à Franz Liszt. Franz Liszt, c'est le dingo du 19e siècle, c'est le pianiste fou furieux qui assomme littéralement le public de notes avec une amplitude, une dextérité, il joue vite, il joue fort, il y a des facteurs de piano qui sont obligés d'inventer des brevets techniques pour suivre ce fou furieux. On écoute à peu près ce que ça donne. Jouez par vous, hein. C'est difficile.
Oui et non.
Comment ça, oui et non ?
Mais c'est de l'amour. Alors, est-ce que l'amour est difficile ? Oui et non. C'est une musique passionnée, c'est une musique qui se donne, et qui se donne, vous parliez de la facture instrumentale, qui se donne tellement aussi par le corps, par la puissance, que Liszt détruisait les pianos. Les pianos ne lui résistaient pas. À l'époque, ils étaient seulement en bois, et c'est grâce à Liszt qu'on a les pianos modernes avec les
mais c'est génial, c'est exactement comme Jimi Hendrix qui détruit sa guitare à la fin de
absolument.
D'un concert.
Mais c'était la première pop star, il n'y avait Paganini au violon et Liszt au piano, et ce sont des personnages qui ont révolutionné l'histoire de la musique.
Il a donné à peu près 1000 concerts, je crois, Liszt, alors que son contemporain Chopin détestait jouer en public.
Oui, et quand Liszt arrive quelque part dans une ville, il y a un jour de congé pour que le public puisse aller dans les rues, acclamer son arrivée, l'acclamer sur son passage. C'est un phénomène.
Et à la fin, le piano est mort.
Et à la fin, le piano est détruit jusqu'à ce que les facteurs de piano, les fabricants de piano, les créateurs, les inventeurs de piano, créent le cadre en fonte tel qu'on l'a aujourd'hui, qui rend le piano plus puissant. Et il y avait un autre phénomène, c'est que jusque-là, vous parliez de Chopin tout à l'heure, les concerts avaient lieu dans des salons, notamment les salons parisiens. Et puis, en fait, la liste attire tellement de public, il faut que les salles grandissent. Donc c'est fini les concerts dans les salons. Les concerts, on crée des salles de concert pour pouvoir accueillir le public qui a envie d'écouter
alors
ce phénomène.
Ces mains, est-ce que vous avez des mains de pianiste? Est-ce qu'il y a des mains de pianiste? Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a dit que vous aviez, vous, petite fille, des mains de pianiste?
Oui, on me l'a souvent dit. C'est alors j'ai des mains qui sont assez fortes, assez larges, qui sont pas du tout. On a souvent l'image de mains très fines. Souvent, les
de doigts.
Mais vous n'avez pas des mains de pianiste. En fait, ce qui est le plus important, c'est l'écartement. C'est-à-dire, en fait, la base 10 en maths au piano, c'est l'octave. Et c'est pouvoir jouer de do à do. La gamme, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est quand même important de pouvoir plaquer do, do. C'est-à-dire, c'est l'empreinte. On peut aussi, il y a des extraordinaires pianistes comme Maria Joao Pires, comme Alicia de la Rocha, qui ont des petites mains, qui avaient des petites mains pour Alicia de la Rocha, qui malheureusement n'est plus là, et qui ont fait des merveilles avec ces petites mains. Mais disons qu'on est obligé d'adapter un peu un répertoire. On ne peut pas tout jouer quand on a des mains relativement petites. Mais il y a toutes sortes de mains de pianiste, mais ce qui est beau, je pense, c'est qu'on travaille l'expression avec ses mains, comme un sculpteur qui va prendre la terre, ou comme un boulanger qui va façonner le pain, la pâte pour faire le pain, le pianiste travaille le son.
Alors, j'ai une dernière question avec Eric Orsena. Vous êtes allé, c'est une chance inouïe, vous avez pu voir la partition originale, le manuscrit des variations Goldberg, écrite de la main, puisque nous parlons de la main, de Jean-Sébastien Bach. Où est-ce qu'il est ce manuscrit ?
À la Bibliothèque nationale de France. Et là aussi, je crois que le plus important, c'est que ça nous relie à la vie. Tout d'un coup, il y a la trace de doigt de Bach.
Voilà.
Il y a cet être de chair qui était là. C'est pas une chose abstraite, c'est pas un compositeur inaccessible.
Il y a une petite tache. Et c'est la trace de doigt de Jean-Sébastien Bach. Et là, on a l'académicien Eric Orsena et l'immense pianiste que vous êtes qui fondent littéralement en larmes. Il y a une trace de doigt de
Bach.
Il est
là. Il est là. Et en plus, il est tout près de nous. À Paris, en France.
En fait, il y avait une tâche, il a voulu effacer quelque chose du bout de son doigt, c'est ça ?
Exactement. En fait, l'encre était précieuse, coûtait très cher, le papier coûtait très cher. Et il n'avait, quand on écrivait, on ne pouvait pas effacer, l'encre était là. Et donc, le seul moyen pour pouvoir réécrire par-dessus, ce qui servait d'effaceur, c'était de prendre le doigt et d'écraser un peu l'encre. Ce qui laisse une trace, sur laquelle qui atténue la densité de l'encre et sur laquelle on pouvait réécrire.
Voilà. Et donc c'est évidemment le doigt de Dieu qui touche Adam. Là, c'est le plafond de la chapelle Sixtine. Vous êtes complètement mystiques tous. Je vous remercie infiniment de cette leçon de musique que vous nous offrez ce matin. Écoutez La Lumière, c'est donc ce nouveau disque que vous consacrez à Jean-Sébastien Bach. Que la joie demeure, vivre avec Bach sortira le 2 avril aux éditions Albin Michel. Je le dis parce que c'est une manière vraiment très grand public d'entrer dans Jean-Sébastien Bach. C'est pas du tout un livre de spécialiste, mais vraiment pas du tout. C'est très généreux. Le 16 avril, vous serez avec Eric Orsena, salle Gaveau, pour raconter Bach sur scène. S'il y a encore des places, précipitez-vous. C'est à Paris. Et puis, c'est assez rigolo. Demain et après-demain, c'est ça, et mercredi, vous serez avec François Bunel, l'homme de la grande librairie. Lui, il va lire des textes de Flaubert. Vous allez jouer du Franz Liszt, du Schumann, de la musique romantique. Il y en aura une représentation à la grande scène du Chênay et puis une autre à la Garenne Colombe. Merci infiniment.
Merci beaucoup,
on avait tellement besoin de musique ce matin. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met On a doublement de la chance. D'abord parce que c'est Valentine Chedebois qui choisit les disques de la grande matinale et ensuite parce que ce matin, elle a choisi Aretha Franklin. Voilà. Il est 9h28, vous êtes sur France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Le soir du premier tour des municipales, c'est un peu comme le jour où on reçoit les audiences radio, je trouve. Oui. Tout le monde a gagné, c'est formidable. C'est même Olivier Faure retrouve espoir pour 2027, c'est dire comme c'est euphorisant.
Voilà, Daphné Burki, bonjour.
Bonjour. Eh ben, à 9h50, je vous présente une nouvelle tête euphorisante. Elle me fait un bien fou, elle s'appelle Marcia. Elle est autrice, compositrice, chanteuse. Faut absolument que je vous la présente.
Voilà, maintenant, c'est le débat du jour.
And the Oscar goes to Michael B. Jordan.
Sous ce déluge d'applaudissements, c'était un Oscar remis cette nuit à Hollywood pour Michael B. Jordan, l'acteur Oscar du meilleur acteur. Timothée Chalamet aurait-il dû remporter cette sacrée statuette ? Que cette cérémonie 2026 dit-elle de l'industrie cinématographique aujourd'hui ? Les acteurs américains sont-ils décidément trop sages face à Donald Trump ? Oscar 2026, on refait le match.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Avec deux critiques de choix, Florence Colombani, bonjour.
Bonjour.
Critique de cinéma pour Le Point, intervenante régulière du Masque et la Plume, excellente connaisseuse du cinéma américain. Vous avez vécu aux États-Unis à une époque. Et puis face à vous, un Américain, un vrai Jordan Mincer, bonjour.
Bonjour.
Journaliste critique de cinéma chez Hollywood Reporter. Tout va bien ?
Ça va.
Ça va, ça va.
Un peu fatigué, là.
Un peu fatigué, voilà. Alors, qui a regardé la cérémonie ? En tout cas, par extrait, en entier. Jordan, je crois que vous n'êtes pas, comment dire, un fou de ces cérémonies américaines.
Non, moi, j'ai réussi à ne pas regarder pendant des années, mais pour cette émission, j'ai décidé de regarder. Je n'ai pas réussi à finir. Je pense que j'ai arrêté vers 2h30 du matin. Moi, je trouve ça toujours un peu ennuyeux. Surtout, c'est une cérémonie. L'industrie se donne des prix, en fait. Il n'y a pas de jury pour les Oscars. C'est l'industrie qui se fête, et je trouve quelque chose un peu...
Qui s'auto-célèbre.
Voilà, et ouais. Je trouve ça toujours un peu gênant, en fait, malgré la qualité de film, en fait.
Oui, impression générale, Florence Colombani.
Oui, une impression un peu de platitude et de quelque chose d'étouffé, comme un couvercle qui est les acteurs, sur les gens du cinéma. Même si moi, j'aime bien le palmarès, je trouve qu'il était juste. Donc,
il était juste. Alors, on va commencer par le cataclysme Marty Suprême, nommé dans 9 catégories, dont meilleur film ou meilleur acteur. Le film Marty Suprême repart avec 0 statuette, malgré une campagne promotionnelle. Alors quand je dis massive, le mot est faible. On en a bouffé du Marty Suprême, mais alors à toutes les sauces. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve que la campagne promotionnelle qui était quasiment portée par Timothée Chalamet tout seul, ça a réussi parce que le film a marché en salle. Il a fait plus de 200 millions de dollars de box-office et c'est pas forcément un film grand public. Donc, je trouve que dans ce sens-là, ça, c'était une réussite. Après, pour les Oscars, oui, peut-être il y avait un peu trop de swagger de la part de Chalamet.
Et c'est quoi? Un peu swagger,
comment on dit en français?
Un peu de forfanterie, on dirait.
Oh, wow.
Est-ce qu'il s'est auto-saboté, Florence Colombani?
Je pense qu'il s'est auto-saboté, mais comme dit Jordan Mincer, c'est les professionnels de la profession, ce que disait Godard, hein, les Oscars. C'est-à-dire on s'auto-célèbre, on se regarde, et c'est aussi un vote. Donc il faut se faire aimer. Et il n'a pas été populaire auprès de ses pairs à cause de son attitude, en effet, très
trop
arrogante.
Trop sûr de lui.
Beaucoup à dire, je donne des performances formidables depuis plusieurs années, je suis au top de mon jeu. Bon, il la joue un peu rappeur presque dans sa personnalité. Et je pense aussi qu'il y a un élément people qui a joué, c'est le couple avec Kylie Jenner. Qui n'était pas du tout affiché au départ jusque-là. Enfin, ça fait plusieurs années qu'il est avec elle et qu'il ne se montrait pas du tout avec elle. Et là, pour Marty Suprême, il est arrivé sur tous les tapis rouges en couple et être associée à la famille Kardashian, bah, c'est pas très classe. Ah, oui. Et je pense pas que ça l'ait aidée.
Vous pensez que ça l'a desservie parce parce que pour le coup, pour la presse, mode, Instagram, people, alors là, c'est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils sont apparus en couple à une de ces remises de prix américaines, ça a fait le tour du monde. On ne voit que, Jordan Brewster.
Mais c'est vrai que en fait, maintenant je comprends, c'est elle qui était à côté de lui pendant les Oscars. Et elle n'avait pas l'air très contente. Hein, mais les deux, en fait, c'était un peu gênant parce qu'ils n'arrêtaient pas de montrer Chalamet parce qu'il y avait des blagues sur lui, parce que justement...
Il tirait franchement la gueule, non ?
Un petit peu.
Il y a une blague sur sa fameuse sortie sur l'opéra et le ballet.
Alors, racontez Florence Colombani pour ceux qui auraient raté.
Alors, dans le cadre de cette campagne pour les Oscars qui était vraiment très, très active de Timothée Chalamet, il a fait une émission pour CNN où il dialoguait avec Matthew McConaughey pour parler de son art, etc. Bon, donc déjà, là, on était à un certain niveau d'auto-célébration. Et c'est là, dans cette interview, ce dialogue entre acteurs qu'il a dit « Moi, je suis heureux de participer à une forme d'art qui parle aux gens, qui est moderne, contrairement au ballet et à l'opéra. »
Oui.
Ça a choqué énormément et notamment, il y a tous les ballets et tous les opéras du monde entier qui ont répondu à Timothée Chalamet. Nous ne sommes pas ringards, nous avons encore des choses à dire et votre mépris est insupportable. Jordan, c'est drôle parce que vous le défendez, Timothée Chalamet.
Déjà, peut-être il a un peu fait la promo pour l'opéra le ballet. Je pense qu'ils ont vendu pas mal de billets grâce à lui. Non, mais je pense qu'en fait, ce qu'il voulait vraiment dire, et ça, je pense qu'il y a une vérité, c'est que le cinéma... Il y a la crainte que le cinéma est en train de se transformer, de plus être l'art populaire qu'on a connu, qui marchait parce que la fréquence des salles aux États-Unis a énormément baissé et ça n'a pas été rattrapé depuis Covid. Et donc, je pense qu'il voulait dire que ça risque d'être plus un art populaire et peut-être un art plus d'élite. Et c'est pas le cinéma qu'on a connu, c'est pas le cinéma qu'on a toujours fêté, c'est ça le cinéma que les Oscars a toujours fêté. Donc je pense qu'il voulait un peu parler de ça, parce que c'est de plus en plus dur de faire...
Il s'y est très 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 mal pris quand même, non ?
Oui. Mais bon, il est jeune, il faut lui donner un peu de temps.
Mais alors, un mot
sur Michael B. Jordan, donc cet acteur afro-américain qui est donc passé devant Timothée Chalamet, pour ce film que la France n'a pas tellement célébré, qui s'appelle Sinners. Vous voulez en dire un mot, Florence Colombani ?
Je pense que c'est intéressant le fait que la France n'ait pas un peu passé à côté de ce film, parce que c'est un film de genre, donc un film de vampire, sur la question de l'identité afro-américaine, et notamment par la musique, avec énormément de blues et toute une sorte de plongée dans le Sud et dans les racines culturelles de l'identité afro-américaine. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de clés sur cette culture pour comprendre le film. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas été perçu à la mesure, de ce qu'il est. Et Michael B. Jordan, par ailleurs, est quelqu'un qui, pour le coup, a un capital de sympathie énorme parce que, justement, il a une attitude assez humble dans son rapport au cinéma. Et ça fait longtemps...
Donc, c'est l'anti-Chalamet.
C'est un peu l'anti-Chalamet.
Voilà.
Ça fait un moment qu'il creuse ce sillon avec Ryan Coogler, ce réalisateur, puisqu'il a joué dans Creed, il a joué dans Black Panther.
Fruitvale Station, c'est un des premiers films qu'ils ont fait ensemble. C'est presque son premier long-métrage en tant qu'acteur pour Michael B. Jordan.
Ouais. Donc c'est le couronnement d'un parcours ensemble. Et c'est vrai que c'était émouvant de le voir recevoir cet Oscar.
Jordan Minster, on est quand même dans une période très particulière, les un an de Donald Trump qui vient de déclencher une guerre, de morts à Minneapolis, des polémiques à n'en plus finir sur ICE, la police des frontières, sur l'affaire Epstein, la ministre de l'Intérieur qui vient d'être limogée, Christine Homme. Et on a l'impression que, comme a dit très justement Florence Colombani au début de ce débat, tout était passé sous silence, tout était écrasé. Il y avait comme une sorte de non-dit, ça vous a frappé ?
Pas du tout. En fait, je pense que l'industrie a toujours fait ça.
C'est vrai.
On n'a jamais eu, peut-être pendant la guerre de Vietnam, il y a eu un peu plus d'action politique pendant les Oscars, mais les Oscars et l'industrie en général a toujours été... il y avait toujours cette crainte de parler trop de la politique. Il y a toute l'histoire d'Hollywood avec McCarthyism, même avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a la collaboration entre le studio et
le McCarthyisme, c'était pendant la guerre froide, c'était la chasse aux sorcières exactement. Où on voulait débusquer des amis des communistes.
Et Hollywood n'a pas montré beaucoup de courage politique. Je veux dire, moi, c'est toujours comme ça. Cette année, j'ai trouvé justement quelques petits discours politiques, ça venait de la part des étrangers.
C'était Javier Bardem
et puis un peu Joaquin Trier, qui a eu l'Oscar de meilleur film étranger. Ils avaient peut-être un peu moins peur que les Américains parce qu'on a l'impression d'être dans une période un peu de censure. On ne sait pas pour quel studio on va travailler. Est-ce que ce studio va être racheté par quelqu'un qui est ami avec Donald Trump?
Il faut dire qu'en ce moment, il y a la question de qui va racheter la Warner.
Oui.
On a pensé que ça allait être Netflix. Finalement, c'est la Paramount.
C'est Paramount.
Donc, il se passe quelque chose de terrible sur le cinéma américain, Florence Colombani.
Non, et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'était le triomphe de Warner cette soirée, puisque et Sinners et Une bataille après l'autre sont des films Warner. Or, Warner...
Une bataille après l'autre, meilleur film, meilleur réalisateur.
Exactement, c'était un peu le sacre. Or, Une bataille après l'autre, c'est un film très politique qui a presque donné l'impression d'anticiper ce qui s'est passé à Minneapolis, hein, parce que ce qu'on voit dans le film, c'est une police qui arrête des immigrés, qui les traque, etc., et tout un système de résistance qui s'organise. Or, le studio...
Bah, tout n'est pas foutu à Hollywood. Hollywood est encore politique.
Moi, je trouve ça très intéressant que ce soit un film si politique qui ait gagné. Et en même temps, toute la campagne marketing autour d'Une bataille après l'autre s'est employée à ne pas aborder ce sujet de la politique.
Pendant la cérémonie.
Oui. Ni la cérémonie, ni même avant, je trouve, pendant la promotion du film. Hein, Paul Thomas Anderson et Leonardo DiCaprio ont donné des interviews. Ils n'en parlaient absolument pas du côté politique du film. Tout était centré sur le fait que c'est un film sur la transmission, sur le fait de croire dans la jeunesse, sur le rapport père-fille entre DiCaprio et sa fille, ce qui est très beau dans le film, mais n'empêche que c'est un film extrêmement précis sur le trumpisme. Ouais. Et ça, c'était pas abordé précisément.
Je pense que le fait que le film, c'est un peu comme Sinners, les deux films ont été surpris au box-office, ils ont cartonné. Parce que je pense que justement le public américain est assez politique, est très politisé en ce moment. Ils ont envie de voir des films comme ça. Mais l'industrie reste un peu apolitique dans son discours parce qu'ils ont peur de perdre une partie du marché ou de ne pas pouvoir travailler sur un prochain film parce que ces studios-là sont trop proches de Trump. Mais je trouve que le film eux-mêmes, pour l'instant, surtout ces deux films produits par The Warners, ils ont parlé au public américain parce que c'est pas... En fait, il y a eu un problème ces dernières années où il y a eu des films qui ont gagné l'Oscar de meilleur film mais qui n'ont pas été beaucoup vus par le public, comme Nomadland, par exemple, ou peut-être un peu comme Everything Everywhere All at Once. Là, on a un film, on a des
meilleur
films qui ont
film, meilleur réalisateur, c'est mérité. Paul Thomas Anderson, c'est mérité.
Ah, pour moi, complètement.
C'est
un film extraordinaire. C'est vraiment un grand film. Et en plus, c'est un très grand cinéaste.
Il n'y a pas débat sur le fait que Paul Thomas Anderson, c'est un des plus grands cinéastes américains aujourd'hui. Mais c'est son 10e film. C'est ça qui est fou. Il a dit lui-même, il faut beaucoup travailler pour gagner ça.
Mais Leonardo DiCaprio a attendu longtemps aussi avant d'être récompensé. Oui. Martin Scorsese a attendu longtemps avant d'être récompensé.
Oui, trop longtemps pour Scorsese. Mais ça, il y a des réalisateurs comme Hitchcock ou Orson Welles qui n'ont jamais eu d'Oscar de meilleur réalisateur. Ça montre aussi l'aveuglement de l'industrie vis-à-vis de lui-même.
Ou est-ce que c'est pas ça qu'on fait payer à Timothée Chalamet, le côté précoce et très sûr de lui à 29-30 ans?
Oui, comme il disait, c'est comme Kendrick Lamar, la chanson « Sit down, be humble ». Il faut être un peu humble, peut-être, parfois, pour être respecté après.
Un petit mot, Florence, quand même. Pas de français au palmarès.
Pas de français et même pas d'Oscar pour un film qui représentait la France, qui était le film de Jafar Panahi.
Un film iranien.
Un film iranien et un film qui a eu la Palme d'Or et qui a été très très admiré. Mais bon, la France peut pas se plaindre, on est quand même très souvent aux Oscars et bien représenté.
Il y a eu quand même dans le prix de meilleur film, meilleur court-métrage, il y a un ex-aequo entre deux films et un film... fait en France et surtout produit par la Galerie Lafayette. Donc, Oscar pour la Galerie Lafayette cette année.
J'ai jamais vu.
Merci beaucoup, Florence Colombani et Jordan Mincer. Donc, les Oscars à retrouver sur le site de France Inter. Vous avez toutes les infos. Merci pour vos analyses. On continue.
Un soir où je broyais du noir, j'étais seul au milieu d'une ombre. Je me noyais sur les boulevards quand elle a surgi dans mon ombre. Elle m'a dit, la rumeur court, que la mort nous suit aux semelles. Elle m'a dit, la rumeur court, et toi tu devrais faire comme elle. Des kilomètres et des kilomètres à essayer d'être un autre que moi.
des kilomètres et des kilomètres avalés à ne rien reconnaître, des mois et des mois à cavaler, à courir à ma perte. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes que tu redoutes. La grâce t'attend là à bout portant au bord de la route. J'ai fait comme si tout allait bien, je n'ai pas plié genoux, j'ai fait comme si ce n'était rien, et j'ai rendu les coups. Puis j'ai fait scintiller l'armure pour qu'on ne me voie jamais faible. Avant qu'apparaisse ma blessure, je m'en vais sous un autre ciel. Des kilomètres et des kilomètres à essayer d'être un autre que moi. Des kilomètres à me fuir pour ne pas reconnaître cette voix, là au-dedans, maintenant je l'entends. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes que tu redoutes. La grâce t'attend là.
Chatterton, baisse les armes, mais pas nous. Il est 9h45 et vous êtes sur France Inter. Charline Vanhoenacker vient d'entrer dans le studio. Ça va, Charline ?
Oui, ça va bien.
Je vous demande pas ce que vous avez fait hier soir. J'imagine que vous n'avez pas regardé les Oscars. Vous avez regardé la soirée électorale.
Non.
Non.
J'ai regardé toute la soirée électorale. Car quelle chance de pouvoir partager ça avec vous ce matin. Sonia ?
Oui.
Sonia,
oui.
C'est quoi votre résultat préféré dans une commune de moins de 10 000 habitants dans le quart nord-ouest de la France ?
Je sais pas, j'hésite.
Je suis vraiment la seule à partager la même passion que Brice Teinturier. Bon. À chaque soirée des municipales...
Il y a Maxence Lambrecq, je pense aussi.
Non, mais parce qu'à chaque soirée municipale, c'est toujours le même petit rituel. Moi, j'achète des petits plats préparés à boire, j'invite des amis qui ne viennent pas. Et après, ça fait plein de...
Tu m'as pas...
Mais hein, ça fait plein de trucs à manger pour la semaine. Sonia, si vous voulez, j'ai ramené du houmous. Mais non, elle dit, tu m'as pas appelé, mais Daphné, je vous ai attendu.
Bah,
oui, il y avait plein de nouvelles têtes hier soir. Excusez-moi de vouloir être conseillère municipale et pas styliste, chanteuse ou DJ. Hein. Je rappelle tout de même que je me passionne pour vos soirées électorales alors que je suis même pas française. Si c'est pas un effort d'intégration, sachez pas ce que c'est. Hein.
C'est vrai.
Il y a eu quand même pas mal de surprises. Édouard Philippe a fait un bon score au Havre, ce qui le rend présidentiable. Et c'est ça qui est bien avec le scrutin local, c'est que si tu gagnes, t'as le droit de faire qu'un an à la mairie avant de te barrer à l'Élysée. Rachida Dati a interdit aux journalistes du Nouvel Obs l'accès à son QG. Ça, elle fait comme Mélenchon maintenant. On sait plus si elle se prépare à être maire de Paris ou physio dans une boîte de nuit. À un moment, je pensais que j'allais m'ennuyer. Et puis j'apprends qu'il y aura une sexangulaire à Mulhouse. Mais c'est une vraie info. C'est une vraie info. Alors qu'on dirait le nom d'une soirée à thème avec Patrick Sébastien, quand même. Et Nathalie Saint-Cric a perdu une roulette. Elle a surnommé Éric Ciotti Benito. Elle a choqué tout le monde. Et moi aussi, j'étais hyper choquée hein, de constater que j'avais ri à une blague de Nathalie Saint-Cric. Hein. Daphné, j'imagine que vous n'avez pas du tout suivi le résultat des élections à Carnac dans le Morbihan, vous.
Le maire sortant, Olivier Lepic, il a fait 42,06% des voix et son principal opposant, Alexandre Lannoy, il a recueilli 29,77% des voix.
Oh, vous êtes vraiment pleine de surprises, Daphné.
Ouais. Et je peux te donner les résultats à Sagne ou encore à Goudoulé en Ardèche.
Non, mais ça va aller, merci.
Mais j'ai un kink municipal, mais vraiment, tu sais.
Non, mais je les connais déjà. Je les connais déjà, les résultats. Vous avez passé la soirée chez qui, Daphné ? Chez Ipsos ?
Je dirais pas.
Il y avait du houmous ?
On voit que j'en ai rien à foutre de cette soirée électorale. Ça se sent ou pas?
Pas moi. Non, je sais ce que vous pensez. Si seulement tous les maires avaient pu gagner au premier tour, on ne devrait pas se farder une nouvelle chronique sur les municipales lundi prochain. Attendez. C'est vous, Sonia, qui pensez ça ou c'est mon inconscient qui parle? C'est quoi les... Non, mais les résultats à nos gens, le retrou, c'est pas une vie. Voilà ce que j'en conclue.
Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Elle a rangé le houmous. Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h48 et nous sommes en direct dans le grand studio de la matinale de France Inter. Ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Marcia. Elle est autrice, compositrice et chanteuse, mais pas que. Certains écrivent un journal intime. À une époque, d'autres tenaient un blog. Aujourd'hui, on dit un vlog. Mais elle a inventé un mlog, la contraction de musique et blog. Un journal musical où chaque morceau a un titre et un sous-titre pour être sûr d'être bien comprise, comme la chanson à balles réelles, entre parenthèses, j'ai visé ta tête dans ma tête.
J'ai visé ta tête dans ma tête, je tire à balles réelles. J'ai visé ta tête dans ma tête, bien plus d'une fois. J'ai visé ta tête dans ma tête, je tire à balles réelles. Oui, j'ai visé ta tête dans ma tête, et ça fait bang, 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 bang. T'es dead. J'étais trop bonne, 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 ce que je suis bête, ce que je suis bête.
Gros kink aussi sur Marcia, hein, Charline. Alors, elle a grandi dans la forêt de Saint-Césaire-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes, et à sa naissance, ses parents ont hésité entre deux prénoms, Marcia, comme la danseuse argentine de la chanson Marcia Baila, d'Erita Mitsuko, ou Georgia, comme la chanson de Ray Charles. Bref, il lui fallait un prénom musical, et comme c'est bien fait. Bonjour Marcia, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci, je suis très 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 émue d'être là.
Moi, je suis très contente que vous soyez là et de vous présenter aux auditeurs ce matin. Vous avez quel rapport avec ce prénom hyper musical, en effet, Marcia?
Oui, c'est vrai que j'ai un rapport musical, parce que dès que je me présente, on me dit « Ah, bah, comme la Marcia, elle danse !» Et je dis « Oui, elle danse !» En plus, c'est marrant parce que tout le monde imagine que dans cette chanson, ils disent « Marcia, elle est belle ». Ce n'est pas dans les paroles, mais tout me dit « Marcia, elle est belle !» Je dis « Merci !» Merci beaucoup.
Marcia, elle meurt surtout dans l'histoire.
Oui, elle meurt surtout.
C'est une histoire terrible, cette chanson.
Ben, je sais.
Je vais être honnête avec vous. J'ai commencé à vous suivre, et vous le savez, sur les réseaux sociaux, mais je ne savais absolument pas de quelle famille vous veniez. Je me suis accrochée à Marcia parce que vos textes, ils m'ont fait sourire, parce que vos sons, ils m'ont fait danser, et votre liberté, elle m'a rafraîchie. Et puis j'ai compris de quel arbre vous étiez tombée, et il se trouve que votre famille a une place très particulière dans le cœur de France Inter. Est-ce que vous me permettez d'en parler ?
Oui, vous faites ce que vous voulez.
Vous le dites avec le sourire. Votre tante n'est autre que la chanteuse et actrice Isia. Votre père est le chanteur et poète Arthur H. Et votre grand-père est l'immense Jacques Higelin. Autrement dit, la famille où la musique n'est pas qu'un métier, mais franchement, c'est langue maternelle chez vous. Et d'ailleurs, votre EP, il est dans cette lignée, ce mlog. Vous êtes définitivement inclassable. Il y a de la poésie, il y a de l'insolence et il y a beaucoup d'amitié pour ceux qui vous écoutent et c'est très agréable. Qu'est-ce qui représente, c'est peut-être une question naïve, mais ce nom Higelin pour vous? Il n'est pas si simple.
Il faut vraiment que je m'entraîne. Hein. Je ne sais jamais quoi répondre, c'est catastrophique. Il représente tout un tas de trucs vraiment très complémentaires, contradictoires, danse et voilà. C'est...
Une famille, quoi.
Ouais, c'est... Voilà. Très, très précisément.
Chez nous tous, hein, c'est complémentaire, contradictoire et c'est dense.
Ouais. Très beau et très dysfonctionnel.
C'est ça,
comme partout.
Alors aujourd'hui, en tout cas, pour ce premier live de Mlog, vous avez choisi le titre « Plus jamais bleu », entre parenthèses, ou les ressentiments d'une idéaliste privilégiée en dep, ce qui veut dire en dépression. Alors, Marcia, confiez-nous au micro de France Inter. Vous êtes bien accompagnée. Qui est avec vous aujourd'hui dans le studio ?
Luca Maminyaina Raharitiana Soa, pardon pour mon accent franchouillard.
Qui est au piano.
Qui est au piano.
Marcia, confiez-nous ce qui vous pèse, s'il vous plaît.
Ok.
Oui, j'ai tout tiré, les rideaux, les volets. Et y'a rien à grailler, pas besoin de manger. Même pas debout, il est 7h du soir. Pour se lever, il est déjà trop tard. J'ai peut-être cessé d'y croire. Est-ce que c'est moi ou bien tous les autres? Mais si c'est pas ça, alors à qui la faute? Est-ce qu'on trouve ça normal que c'est 1% qui se calme? Alors, si je m'endors,
Si je ferme les yeux, si je quitte mon corps en instant ou bien deux. Et si dessous les draps, bon, je m'y sens mieux. C'est que dehors, y'a le sang, y'a le feu. Et c'est que le ciel ne sera plus jamais bleu. Et c'est que la mer ne sera plus jamais green. Et c'est que la terre ne sera plus jamais gris. Ouais. C'est que la vie a perdu sa valeur. Et c'est que l'humain ne sera plus jamais digne. Et c'est que dehors, y'a le sang, y'a le feu. Ouais. Et c'est que le ciel ne sera plus jamais bleu. Non. Faut faire des efforts qui disent à la paix. Pas trop de clim, pas d'électricité. Ok. Ouais, moi je veux bien, je suis d'accord, c'est noté. Mais pour être crédible, faudrait peut-être débrancher deux ou trois jets privés. Est-ce que c'est moi ou bien tous les autres? Ou mais si c'est pas ça, alors à qui la faute? Est-ce qu'on trouve ça normal que c'est 1% qui se gaffe?
Ah ouais,
wow. Merci beaucoup.
Ouais, ouais. Non mais wow.
Allez, 9h du matin.
Et ça me fait toujours le même effet, je finis en larmes à chaque fois que j'entends votre voix, ça me fait quelque chose, je ne sais pas où ça vibre. De toute façon, vous provoquez des choses. La couverture de cette EP, chers auditeurs, c'est une photo qui lui a valu apparemment presque une garde à vue. On le dit.
Non, pas presque. Une nuit de garde à vue.
Une nuit de garde à vue, j'en suis désolée. Ouais. Alors, nous voyons Martia.
Je regarde, j'ai toujours pas remis mes lacets.
Alors, ben, je vous raconte. Ah ouais.
Flemme de
alors,
fou.
Cette photo, je vous la décris, mais vous pouvez aller déjà streamer cet album, Log. Elle fait de la barre à pompiers dans un métro, tout simplement. Elle danse sur, comme sur une barre de pole dance dans le métro, en tout petit short. Mmh. Et donc, ça n'a pas plu aux flics.
On peut pas ?
Non, c'est pas
apparemment,
ça.
Apparemment, on n'a pas le droit.
C'est parce que vous étiez quasi à
quel
poil,
point
quoi,
je peux en parler. Non, pas du tout. J'étais totalement habillée, comme en été, quoi.
Voilà.
Comme en été, en boîte de nuit. Mais je suis habillée. Et non, mais je sais pas à quel point on peut le dire, mais quand même, il faut en parler, c'est un peu scandaleux, je trouve. Sachez que les gens qui travaillent à la RATP ont une commission de 10% à chaque fois qu'ils portent plainte.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc on a
j'ai
porté plainte contre
au commissariat.
Vous. Oui. Aïe. Donc une nuit de garde à vue, vous n'avez plus les lacets, mais vous avez quand même gardé les chaussures et une couverture d'album qui est complètement démente. Mais puisqu'on parle de métro...
Que j'ai dû refaire du coup.
Ah, ok. Ouais. Mais puisqu'on parle de métro, on parle de Paris, on écoute Paris Vie deux secondes.
J'ai mon ticket d'entrée dans un club à AFP, j'y vais pour oublier que c'est Paris. J'ai mon flash de Porto, j'ai pris les Marlboro, me reste que 7 euros jusqu'à jeudi. C'est Paris Vie.
Bon, bah, il se trouve qu'on est dans la semaine des municipales, mais là, vous réglez vos comptes avec Paris.
J'ai pas fini.
Ça continuera.
C'est que le début.
Ah, elle est bien, cette chanson. Votre voix qu'on a entendue résonner, votre façon de l'utiliser, elle est déjà reconnaissable, Martia. Mais le point de départ de votre voix VOIE artistique, vous ne le situez pas précisément. Vous avez étudié le théâtre, l'arabe, la sociologie, l'anthropologie. Mais cette voix-là, quand est-ce qu'elle s'est fait entendre à vous? Est-ce que c'est dans vos premiers sons que vous avez enregistrés à 12 ans dans le studio de votre père? Est-ce que c'est quand vous avez fait la choriste sur une de ses tournées à 16 ans? À quel moment vous avez dit « bon, allez, ça suffit, maintenant je vais l'utiliser
je... » C'est quand j'ai essayé de ne pas le faire, quand j'ai essayé de faire d'autres choses que de la musique, que j'ai enchaîné les dépressions. À chaque fois, je me disais « je comprends pas, viens ». Et c'était vraiment, j'étais très malheureuse, quoi. Et du coup, je me suis... Finalement, le seul truc que je continuais à réussir à faire, puisque dépression oblige, on ne peut rien faire d'autre, c'était chanter et pleurer, évidemment, et me lamenter sur mon sort. C'est comme ça que j'écris plus jamais bleu. Et du coup, c'est... ça m'est... Enfin, ça m'a toujours rattrapée, tenue.
Et aujourd'hui, je vous ai proposé donc de faire une reprise. Et vous avez choisi « Jeune demoiselle » de Diams. Alors, j'ai envie de dire, le studio de France Inter est tout à vous.
Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, baby, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, baby, oh, laisse-moi. Lis-moi.
Alors, je suis pas la seule à être fan. Rihanna a écouté votre blog et elle vous a écrit pour vous dire qu'elle était fan. Alors non, c'est une rumeur que j'essaye de lancer pour le début de sa carrière. Marcia, vous auriez une dédicace ce matin au micro de France Inter ?
Ben, je voulais remercier infiniment Rihanna.
Ouais, ouais.
Pour son incroyable et bouleversant retour et ses encouragements chaleureux. I love you, Riri.
On vous aime très fort, Rihanna. Ça s'appelle Mlog, M-L-O-G. Vous pouvez le streamer. Elle s'appelle Marcia, M-A-R-C-I-A. Merci.
Merci, 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 Daphné.
Énorme coup de cœur ce matin. Merci beaucoup, Marcia. Merci, merci beaucoup, Daphné. Je vous présente tous les garçons, tous les filles qui vont fabriquer la grande matinale cette semaine. À la rédaction en chef, Mickaël Thébault, assisté de Nicolas Sabat. À la technique, Anne-Laure Cochet et Théo de Lobadère. Oui, je me trompe à chaque fois. De Lobadère. À la réalisation, Maria Pasquet, Christophe Imbert. Programmation, documentation, Charlotte Matou, Amélie Stadelman, Périne Malinge, Mathilde Declat, Joachim Taïeb, Capucine Aubert, Jean Brossier, Juliette Drone, Alexandra Brouillet et Emma Guyomard. Restez à l'écoute parce que
trop
juste
de
après
gens.
Les infos...
Faut fusionner peut-être.
Et puis il y a aussi tous les standardistes de France Inter qu'on aime beaucoup, qu'on salue et qu'on remercie.